Je suis Cédric Téton, CTO de PackMind, et dans Tech Lead Corner, je reçois des Tech Lead, Engineering Manager, CTO, bref, des passionnés de la tech, pour parler de leur parcours et surtout de leur mission.
Notre métier va revenir pour moi à son premier sens, qui est vraiment l'ingénierie, et ne pas juste écrire du code pour répondre à un besoin.
Et aujourd'hui, pour ce premier numéro, je vais accueillir Dora Bartagiz. Salut Dora.
Salut.
Comment vas-tu ?
Très bien, et toi ?
Je vais très bien également, merci. Je suis ravi de t'avoir pour ce premier numéro. Vraiment merci d'avoir accepté mon invitation.
Merci de m'avoir invité en premier.
C'est un plaisir. Pour ce podcast, ça se déroule en 4 temps. On va faire une petite intro rapide en 2 minutes où je vais te laisser te présenter à l'audience. Ensuite, on va parler de ton fait marquant. Tu vas nous parler d'un de tes projets qui a pu te marquer en termes d'expérience. Un projet significatif pour toi avec les enseignements que tu as pu en tirer. Donc, on va en discuter ensemble. Et puis après, j'aimerais avoir ta vision de qu'est-ce que c'est être un ou une tech lead. Quelles sont, selon toi, les qualités indispensables en termes de posture, d'attitude. J'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus. Et on terminera par parler de GenAI, de Generative AI dans le contexte du dev logiciel, qui est quand même un sujet, je pense, incontournable aujourd'hui, donc j'aime bien poser la question à mes invités pour savoir ce qu'ils s'en servent, est-ce qu'ils sont plutôt curieux, motivés pour s'en servir, est-ce qu'ils sont un peu plus frileux. Voilà, c'est tous ces sujets-là qu'on va aborder ensemble. C'est parti. Alors tout simplement, Dora, est-ce que je peux te laisser te présenter en 2 minutes?
Je m'appelle Dora Bartagiz, je suis VP Tech chez Arola. Alors je suis de formation informatique, donc j'étais toujours dev, surtout sur les environnements Microsoft, donc .NET principalement. Et depuis 1 an et demi, j'ai pris la casquette à mi-temps de VP Tech chez Arola. Donc, je fais partie de la direction technique avec Edouard Gomez-Vaez et Cyril Martraire. Et puis, pour les autres activités, je suis assez active sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn principalement. Donc, vous pouvez me suivre avec le même nom de famille, Dora Bartagiz. Et je suis aussi, quand on accepte mes CFP, speakeuse dans certaines conférences. Et j'oublie à chaque fois de le noter, mais je suis aussi co-auteur d'un bouquin qui s'appelle Softwarecraft aux éditions Luno. Co-écrit avec 4 autres co-auteurs, notamment Cyril Martraire, Arnaud Thieffen, Oussam Faki et Fabien Egel. Et moi-même. Et j'étais ravie de ce projet parce que j'ai double casquette, à la fois co-auteur et illustratrice des petits dessins qui sont dans le bouquin.
J'ai eu l'occasion de partager ce livre à plusieurs personnes dans mon entourage et j'ai eu d'excellents retours, donc je vous conseille ce livre Softwarecraft, qu'on trouve assez facilement, je crois. Top, écoute, merci pour cette intro.
Merci Cédric.
Je te propose qu'on passe à ton fait marquant. J'aimerais, Dora, parler avec toi d'un projet qui t'a marqué, une expérience que tu as vécue dans ton parcours professionnel et qu'on discute ensemble de pour quelles raisons tu penses que ce projet a été impactant pour toi. Avant de parler de ces raisons-là, est-ce qu'on peut resituer un petit peu le contexte de ce projet que tu as choisi de nous évoquer aujourd'hui ?
Oui, c'est un projet pour un client d'Arolab, un leader du marché français dans le e-commerce. Dans ce cadre-là, il y a la vision, en tout cas, ou la décision, on va dire, du groupe, c'est de partir sur ce qu'on appelle des marketplaces. Double objectif, puisqu'ils veulent partir sur des marketplaces, donc vendre leurs produits sur ce qu'on appelle d'autres vendeurs, donc par exemple sur Amazon, sur la Redoute ou autre. Et en même temps, être eux-mêmes en tant que marketplace. Donc, c'était un site e-commerce, on va dire, classique. Et l'idée, c'est de vouloir aussi accueillir d'autres produits, d'autres marques. En fait, pour faire ça, la décision, en fait, il y a eu plein de décisions qui sont arrivées derrière. Et notamment, une, c'est partir sur une architecture plutôt event-driven. Simple, c'est de vouloir utiliser au maximum ce qui existe, parce qu'on n'a pas envie de réinventer la roue. Et donc, l'idée, c'était de faire un gros refacto et surtout sortir quelques briques de l'ancien, on va dire, monolithe, pour que ça soit utilisé côté nouvelle brique intégrer ou nouveaux domaines dans l'architecture event-driven.
D'accord. Ce monolithe, pardon, qu'est-ce que c'était en termes de stack? Tu peux nous en dire un peu plus?
C'était donc un front classique web, hein, c'est du JavaScript, React, et puis du back plutôt en .NET, donc du C# avec une base de données SQL Server classique, quoi. Et tout est dans la même solution, on va dire, côté back. Et l'idée, c'est justement de le splitter en potentiellement plusieurs domaines, notamment, et qui vont être utilisés donc dans notre brique de l'architecture globale du SI. Quoi.
D'accord, très bien. Alors, vous êtes combien de personnes à travailler sur ce projet-là ?
Alors, dans le projet, dans l'ensemble, l'équipe, elle fait 30 personnes à peu près. Et après, le refactoring en question, on était trois dessus, avec moi en tant que lead. Et puis, j'ai deux autres devs avec moi. Et l'idée, c'est de... on s'est dit, comment on veut le faire, sachant qu'on avait déjà une deadline.
Okay.
On a fait un espèce de rétro-planning. Donc, ils se sont dit, pour assurer, on va dire, il faut quand même une période de QA, parce qu'on avait une équipe QA et on avait des tests automatisés aussi. Et donc, il faut que le développement s'arrête à cette date-là, etc. Donc, classique de tous les projets, hein. On a la deadline avant même de commencer le projet. Et donc, on avait, moi j'avais dit à l'époque, OK. Par contre, ce qu'il me faut, en termes d'outillage, c'est que j'avais envie d'avoir les tests automatisés de l'équipe QA en local pour chacun de nous, les devs. Et donc, au début, on m'a dit, mais non, on a déjà prévu une phase de QA, donc pourquoi tu demandes ça? Et en plus, on n'a pas de licence. Réellement, parce que l'outil c'était Catalan,
okay.
Et on n'a pas de licence supplémentaire pour vous les donner. Donc moi j'ai regardé Catalan, ils proposaient à peu près une période de gratuité au début, et donc on a dit on va utiliser la période gratuite et on verra après. Et donc on a demandé au lead de l'équipe QA de nous aider pour mettre en place tout ça en local. Enfin, chacun de nous en tout cas avait l'environnement pour lancer les tests automatisés. Et ce qu'on faisait, donc il y avait ça, et après, pour toute la partie, on a identifié quelles sont les parties qu'on va sortir, donc quelles sont les briques qu'on voulait extraire pour que ça soit utilisé de l'autre côté. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit, OK, si on veut extraire ces briques-là, potentiellement, alors, il y a deux possibilités. Soit on l'extrait tel quel et puis ça sera utilisé tel quel de l'autre côté. Soit pour certaines parties, ça nécessite par exemple une modification du design ou modifier en tout cas principalement le design. On n'a pas modifié le comportement. Et donc on s'est dit, OK, pour faire simple, comme on le sait, à partir du moment où on veut partir sur du refacto, il vaut mieux avoir l'harnais de sécurité, qui sont les tests. Et donc, on a commencé par créer ce qu'on appelle les master, Golden Master. C'est l'ensemble des tests qu'on va écrire pour couvrir, du coup, tout le code, en tout cas, toutes les fonctionnalités qu'on va refactorer. Et donc, avant même de commencer à refactorer la moindre ligne de code, on s'assurait entre nous trois. Au début, on était parti aussi en mob parce que les deux devs n'ont pas l'habitude de travailler ainsi. Et pour eux, le refactoring, ça va être un hommage ou à l'extraction de méthodes, des trucs simples, quoi. Et donc, justement, pour leur montrer l'exemple, on a fait, au début, on a vraiment consacré presque une semaine entière à faire les choses ensemble, vraiment pour leur montrer, voilà comment ça se passe. Et je parlais à voix haute, je réfléchissais vraiment à voix haute pour qu'ils comprennent la logique et vraiment le mindset de la chose. Et donc, on avait écrit comme ça les tests. Et à partir du moment où on avait tout couvert, parce qu'on utilisait aussi les outils tels que la suite de JetBrains pour calculer la couverture de code, pour vérifier que tout est couvert par les tests qu'on vient de rajouter. Et ensuite, une fois qu'on a tout qui est couvert, on faisait encore plus que ça, parce qu'on a utilisé aussi certaines... les techniques de mutation testing. Ouais, la technique de mutation testing, ça correspond à quoi? C'est, en fait, on va lancer finalement une librairie qui va changer le code et donc elle va relancer les tests. Et plus on a de tests rouges, plus c'est positif. parce que ça veut dire que en fait, le code est bien couvert par des tests. Parce que parfois, il est couvert, mais finalement, il couvre la ligne, mais pas tous les chemins du code.
Ok, je comprends.
On a essayé de vraiment sécuriser le truc pour se dire, parce que c'était un gros chantier quand même, donc on ne voulait pas comment dire, prendre le moindre risque, quoi.
Oui, c'est normal, oui. J'avais une petite question, Dora, excuse-moi, je reviens sur un point que tu as mentionné. Vous avez travaillé en mob programming. La question qui me vient, c'est comment est-ce que les autres personnes dans ton équipe ont accueilli cette pratique-là? Est-ce que ces personnes étaient familières sur le mob programming et donc ça s'est passé plutôt bien, ou est-ce qu'elles découvraient et donc il a fallu aussi en même temps d'amener ta méthodologie d'extraction et de recherche de couverture totale du code, amener aussi ces concepts-là de comment est-ce qu'on travaille à plusieurs en même temps sur une base de code?
Oui, c'était vraiment plutôt une formation, on va dire, parce qu'il découvrait tous ces concepts-là. Qu'est-ce que le mob, qu'est-ce que le Golden Master, qu'est-ce que la mutation testing, enfin, vraiment, c'était... Pour eux, toutes ces notions étaient... Enfin, ils savaient ce que c'était. Enfin, ils ont déjà entendu parler des sujets, mais ils ne l'ont jamais pratiqué en vrai, quoi.
D'accord. Est-ce qu'ils ont réussi à rentrer facilement dedans? Est-ce que c'était plutôt fluide, ou est-ce qu'il y a eu quelques réticences à la pratique?
Il n'y a pas eu de réticence. Enfin, c'était plutôt en mode cool, on va apprendre des choses. Donc, c'était plutôt intéressant dans ce sens-là, justement. Et après, il y a eu quand même quelques, on va dire, couacs maîtrisés. Parce que souvent, justement, quand on apprend de nouvelles choses, notamment la notion de Golden Master, donc après cette période d'une semaine où je leur montrais, c'était parti, on s'est réparti les tâches et chacun a parti une partie du code pour justement refaire la même chose, ce qu'on a fait ensemble. Et parfois, il y avait... alors, la deuxième règle aussi, c'était dès que j'ai un truc vert, je commit. J'attends pas la fin de la journée pour commit. Et il l'aurait montré justement pendant la semaine, c'est que j'ai fait exprès de me foirer quelquefois, ou alors de m'autoriser des modifications manuelles pour leur montrer que, bah, vous voyez là, si je veux revenir en arrière, bah, à force de faire des CTRL Z, on n'arrive pas au moment où on veut, alors que juste un rollback git, ça règle le problème et on n'a pas tout perdu d'un coup. Et donc, on a continué comme ça. Et enfin, forcément, comme je disais, il y avait quand même quelques, on va dire, erreurs ou quoi. Après, on n'était pas loin. Donc, on m'appelle, Dora, bah, ça se passe ça pas. Là, j'arrive pas à faire le refacto tel qu'on l'a fait ensemble. Comment ça se passe? Donc, je vais aider la personne. Je lui dis, bah, écoute, là, par exemple, ton Golden Master, bah, il n'est pas tout à fait... tout à fait fini, peut-être qu'il te manque encore des tests, est-ce que tu as bien vérifié? Il y a souvent, comment dire, des petits pièges, surtout avec les conditions de if, par exemple, où tu as une combinaison de plusieurs conditions, et donc tu as l'impression que tu as couvert toutes les conditions, mais la combinatoire, elle n'est pas finie. et donc t'as, pour rien que déjà une condition dans le if, tu as besoin de deux tests. Alors, si c'est un truc et un autre, ou un autre, c'est encore... t'as plein de combinaisons, quoi.
J'imagine. Donc, du coup, si on reprend sur le projet, il y a cet objectif de Golden Master. Est-ce que vous aviez défini dans votre rétro-planning un milestone, justement, pour une couverture complète, ou est-ce que c'était... Voilà, vous étiez pas engagé sur ça?
On n'était pas engagé sur ça. Le but, c'était vraiment d'arriver avec la deadline... et être prêt pour que ça soit utilisé de l'autre côté, parce que les équipes qui sont en train de créer les briques, pardon, pour partir sur les marketplaces, en fait, on avance en même temps. Donc, l'idée, c'est d'arriver à un moment donné où on intègre le tout et on se dit, on aimerait bien à ce moment-là avoir le minimum de casse, quoi. Et donc, en parallèle du Golden Master et toutes les, on va dire, quick wins qu'on avait fait au fil de l'eau, on se lançait toute la batterie de tests automatisés de l'équipe QA. Tous les deux jours, on se lance vraiment sur la branche sur laquelle on travaille et on s'assure que tous les tests sont OK, sont au vert. Pour l'instant, à l'époque en tout cas, à un moment donné, on l'a lancé vraiment en local parce qu'on n'avait pas un environnement côté CI pour pouvoir lancer tous les tests. Il fallait créer un environnement et on s'est dit, Ça va être encore du temps de demander côté infra, de nous préparer toute la partie infrastructure. Donc on s'est dit, bon, bah, on va quand même les lancer en local, c'est déjà mieux que rien, quoi. Et on s'assurait, qu'à chaque fois, enfin, s'il y a un test rouge, tout de suite on lève l'alerte, on appelle quelqu'un de l'équipe QA pour lui dire, bah, écoute, on a eu ce test-là rouge, est-ce que... Enfin, à ton avis, c'est quoi déjà la problématique fonctionnelle derrière? Parce qu'on ne connaissait pas aussi toute la partie métier derrière. Donc, à la moindre alerte, on n'attend pas le lendemain ou on arrête vraiment le dev et on fixe ce test-là et on continue, quoi.
D'accord, vraiment dans l'esprit de se dire un bug va coûter moins cher à résoudre si on le traite le plus tôt possible. Donc,
c'est
on n'attend pas
exactement.
Pour...
Okay. C'est exactement ça. Et bah voilà, on est arrivé au terme du dev comme ça, du refacto sur. Et puis comme je disais au début, il y avait quand même quelques briques où certaines parties, on va dire du refacto qui étaient plutôt simples à refactorer, et d'autres où ça a mérité un petit peu plus de design, notamment des bouts. Enfin, parfois on s'est permis, par exemple, de sortir, je sais pas, un design type stratégie ou parce que on voyait que bah, en fait non, il y avait plein de, c'était incompréhensible et potentiellement, enfin, autant faire propre, autant profiter de ce refacto parce que potentiellement on le fera jamais un autre jour, quoi.
Ouais, tout à fait. Donc c'était quoi les techniques? T'as parlé design pattern, est-ce qu'il y a d'autres approches justement pour essayer d'extraire des parties du code pour ce refactoring?
Principalement, en fait, on se basait, je sais pas, c'est marrant parce que si je cite toutes les, comment dire, toutes les, ça va pas tenir sur une heure. mais notamment, on se disait, ok, comment ça se passe si j'ai bah déjà une fonction qui a plein de if. En fait, on a essayé de sortir un petit peu quelques semelles, identifier quelques semelles pour se dire, est-ce que ça a du sens de les laisser comme ça, ou ça mérite quand même de faire un minimum de design, quoi. Et donc, les objets, notamment les objets anémiques, on essayait de récupérer. Si on va extraire une méthode d'un service, par exemple, et on trouve que cette méthode-là, elle va, enfin, ça utilise uniquement un objet, bah, hop, on move la méthode dans l'objet, et comme ça, on n'a pas besoin de sortir le service, mais juste l'objet en question, quoi. Donc voilà, enfin, on a essayé de faire ce genre de refacto et à la fois amélioration du design. Enfin, même si l'amélioration du design, c'est du refacto aussi, hein. Mais on n'a pas fait juste une extraction, on va dire, des parties juste bêtement comme ça pour que ça soit utilisé de l'autre côté, quoi.
D'accord. Donc le projet avance, la deadline approche bientôt. C'est quoi l'état d'esprit à ce moment-là?
On arrive à la fin et maintenant, c'est l'équipe QA qui reprend la main. Et donc, ils avaient 2 semaines pour vérifier vraiment la totalité du livrable. Donc, tout le site avec toutes les fonctionnalités. Et ils avaient prévu ça en 2 semaines. Et donc, c'est marrant parce qu'on était en open space. Donc, l'équipe QA était à côté quand même. Et donc, premier jour, on n'entend rien. Deuxième jour, on n'entend rien. Et puis, moi, à un moment, je me lève. Tout va bien là? J'entends pas, c'est pas normal. D'habitude, quand il y a un bug, il lance l'alerte avant même d'écrire le.
Oui, j'imagine.
Et on me répond, bah non, enfin, on chôme pas, hein, on avance. et donc, c'était bon signe. Et jusqu'à la fin, pratiquement, enfin, des 2 semaines, finalement, ils ont dit, bon, bah, on n'a rien trouvé. Ce qui était un petit peu miraculeux pour le manager.
C'est une bonne nouvelle. Mais vous êtes donné les moyens après de le faire. Enfin, comme quoi, tout ce que vous aviez mis en place, ton objectif avec d'avoir une couverture complète, les Golden Master, etc., tout ce que vous avez mis en place, finalement, il y avait quand même un objectif derrière, c'est d'avoir le moins de bugs possible. Donc, j'ai l'impression que c'était quand même plutôt un objectif atteint sur ce point de vue-là.
Oui, c'est vraiment une... J'allais dire une petite fierté, mais plutôt une grosse fierté dans le parcours.
J'imagine. Et donc, après cette phase de 2 semaines, pas de bugs ou très peu.
Donc après, on a livré en prod la partie data site. Comme ça, au moins, on est sûr que côté production, en tout cas, on est ISO fonctionnalité d'avant. Et puis, et c'est marrant parce que le lendemain, on reçoit un bug de prod.
Ah oui.
Oups.
Et que fait l'équipe QA alors?
C'est ça. Et en fait, c'était un cas particulier, mais vraiment très fin. Et on s'est dit, mais on n'arrivait pas à le reproduire au début en local. Et puis, jusqu'à trouver la cause du problème. Et c'était... tu sais, quand on a tendance à... C'est bon, on est serein, on est très sûr de soi. Et puis, on se permet... Allez, je n'ai pas besoin de le faire avec la Sharper, ça, je vais le faire à la main. Enfin, c'était la seule modification manuelle.
Ouais.
Et puis, les bugs de prod.
Ça fait des petites piqûres de rappel, je trouve, moi. Ce genre de choses.
C'est ça. Ouais. Exactement ça.
D'accord.
Donc voilà.
Bah, écoute, un projet. C'est plutôt marrant. Bah écoute, en tout cas, un projet qui a l'air de s'être quand même plutôt bien passé. Si tu devais en ressortir un ou deux éléments, voilà, qu'est-ce que je dirais, qu'est-ce que tu as appris sur ce projet-là? Est-ce que tu as des enseignements que t'en tires particuliers?
Bah, en fait, c'était l'occasion. Parce qu'à chaque fois, on se dit, c'est pas possible de. Non, mais enfin, c'est pas possible de mettre en place peut-être un Golden Master, c'est trop coûteux pour faire du refacto. Ou alors, dans tous les projets que j'ai fait avant, c'est à chaque fois, je fais une technique de celle que j'ai utilisée là. Et là, je me disais, c'est l'opportunité. Alors, c'est peut-être par égoïsme de ma part aussi, de me dire, c'est l'occasion pour appliquer tout ce que j'ai appris. Mais en même temps, j'étais tellement sûre de moi en me disant ça fera une bonne assurance que tout se passe bien, que j'étais partie. Enfin, je me suis même pas laissé le doute de me dire non, par exemple, le mutation testing, c'était trop pour ce que c'est. Je pouvais très bien éliminer une des techniques qu'on avait déjà utilisées à l'époque. Mais je me disais non, en fait, je sais que ça peut rentrer dans le temps. Qu'on s'est fixé. Donc, pourquoi s'en priver? Surtout si on. Le but, c'était vraiment de partir ISO et de ne pas avoir de bug de prod. Quoi.
Un élément, quand même, qui je pense était essentiel dans la réussite de ce projet, c'est que tu avais justement cette expérience et une certaine maîtrise aussi de ces pratiques-là. Peut-être si tu n'avais pas été là, mais que le reste de l'équipe voulait profiter de ce projet-là pour justement découvrir le mutation testing, aller vers le Golden Master, compte tenu de la deadline, peut-être que ce serait peut-être passé différemment. Donc, c'était quand même un critère important de succès que tu arrives, toi, avec aussi une forme d'assurance pour toi et auprès de ton équipe de dire on va mettre en œuvre ça. Et il y a des bonnes raisons pour le faire. Et malgré la deadline qu'on a, parce que dès qu'on a une forme de pression, parfois on peut mettre certaines choses de côté. J'ai l'impression que finalement, c'était la décision à prendre de quelque part garder son sang-froid et de se dire qu'à la fin, ce qu'on a fait, on a eu raison de le faire.
Ouais.
Et j'imagine que derrière, toutes les parties prenantes, les managers, étaient plutôt satisfaits de l'issue du projet, quoi.
Ah oui, je me rappelle, moi, la tête des managers, quand j'ai demandé les tests automatisés de l'équipe QA. Mais pourquoi tu demandes ça? C'est absurde comme demande. Non, mais je vous assure, je sais de quoi je parle et j'ai besoin de ces tests-là. Et en fait, au début, c'était... Enfin, tout le monde, que ce soit le manager de l'équipe dev ou le manager de l'équipe QA, c'est qu'ils ne comprenaient pas. Et en fait, à la fin du projet... Bon, j'expliquais en même temps, tout au long du projet, voilà comment notre façon de faire, pourquoi j'ai demandé ces tests automatisés, parce qu'on les lançait de temps en temps, etc. Donc, ils comprenaient au fil de l'eau la démarche et le pourquoi du comment. Et en fait, à la fin, justement, c'est là où ils ont dit heureusement, je me lance des fleurs là, mais heureusement que j'étais là pour tenir ce projet. Quoi.
Écoute, je ne sais pas si tous les projets sur lesquels tu interviens se déroulent aussi bien. Mais écoute, en tout cas, ça donne envie de travailler avec toi.
Merci. Ça se passe pas toujours comme ça.
J'imagine des fois c'est un peu plus le feu, mais bon, malgré tout, voilà, quand ça se passe bien, ça fait du bien aussi de se dire que c'est pas toujours, on n'est pas toujours à courir et à mettre de côté aussi des bonnes pratiques. Bon, en tout cas, merci Dora pour ce fait marquant. Je te propose maintenant qu'on passe à la rubrique suivante de ce podcast Tech Lead Corner qui s'intitule « Qu'est-ce que c'est être un ou une tech leader ?» J'aimerais maintenant, Dora, que tu nous parles un peu de toi, de ton point de vue sur qu'est-ce que c'est être un bon tech lead, une bonne tech leader ou plutôt qu'est-ce qu'on doit attendre d'une tech leader comme toi, par exemple, en termes de qualité voilà, technique, managériale, organisationnelle, relationnelle. C'est quoi ta vision sur le sujet ?
Il y a le côté, en fait, quand on a besoin d'une certaine expertise quand même technique, quand on est tech lead, je dis bien une certaine, on n'est pas obligé d'être expert sur tous les sujets, mais surtout, l'expertise ou du moins la connaissance technique, ça permet de faire le choix, enfin certains choix en tout cas, qui peuvent être remontés par l'équipe. C'est là où, du coup, il y a le deuxième critère pour moi, pour la caractéristique d'un tech lead ou d'une tech lead, c'est aussi l'écoute. Donc, on doit écouter son équipe parce que, justement, on n'a pas toute la connaissance. Et donc, le mieux, c'est d'écouter les autres. Et justement, grâce à cette écoute, forcément, il y a des choses qui remontent. Et donc, on peut décider derrière ou choisir quelle est la meilleure solution, on va dire, par rapport au contexte dans lequel on est. Et il y a une deuxième partie pour moi qui est la transmission. Donc, comment justement transmettre des bonnes connaissances. Là, je parlais de... En fait, j'apprends aux autres comment ils peuvent faire, en tout cas dans des environnements, des situations pareilles. Et ça, pour moi, c'est très important. Transmission de la connaissance des pratiques, de la connaissance des techniques qu'on peut utiliser, mais aussi transmission d'attitude. Notamment le fait d'être assertif, le fait de dire clairement les choses, est-ce qu'on va y arriver ou on ne va pas y arriver. Et si on va pas, on sait d'avance qu'on ne va pas y arriver, notamment, quelles sont les actions. On ne va pas laisser les choses traîner et on verra, on fait, comme on dit, faire l'autruche et on laisse couler et on attend la fin, quoi. Pour moi, pareil, être donc assertif, être ferme aussi, quand ça va pas le dire, c'est que c'est le dire, c'est pas pour blâmer les autres, mais le dire pour ne pas pour arrêter le saignement entre guillemets. C'est quand ça va pas, on le dit. Si tu as envie d'entendre, on va dire les points négatifs ou les points d'amélioration, tant mieux. Pour toi, enfin, je parle toi, c'est la personne qui est en face. Et après, si la personne n'a pas envie d'entendre ce que tu viens de lui dire, bah en fait, c'est qu'il y a un problème d'alignement, on va dire, de valeur ou de, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est que on n'est pas sur la même longueur d'onde.
Ça me fait penser à, en termes d'état d'esprit, d'attitude, justement, quand on travaille tous sur un projet, il y a, je pense, enfin, tu dois connaître tout ce qui est les 10 commandements de la programmation sans ego, et je pense que c'est parfois dans chaque équipe, on a un peu ces règles tacites entre nous, de se dire, voilà, on se détache un peu, enfin, quand on transmet du feedback à quelqu'un, c'est pas forcément lui, c'est sur lui ou elle, mais c'est par exemple sur le travail fourni. Mais malgré tout, j'imagine que c'est une partie qui du métier, en tout cas du travail, qui est pas la plus simple, la transmission de feedback, parce que tu dois aussi peser tes mots pour faire justement attention à passer des messages, enfin faire donner un feedback constructif, même si la personne voilà est prête à recevoir des critiques, c'est jamais agréable. Et je pense que une partie dure de ce métier-là, justement, c'est de transmettre quelque chose de manière constructive, bienveillante, sans pour autant blâmer la personne, et aussi prendre en compte peut-être les caractères et les profils de chacun et de chacune. Peut-être qu'on va pas parler de la même manière à un tel ou une telle. Et ça, j'imagine que c'est pas évident à gérer, surtout que peut-être les autres entendent aussi, ils disent pourquoi elle me parle comme ça et pas à lui.
Oui, c'est pour ça que, en fait, ça dépend si c'est, on va dire, la situation que je veux remonter, elle s'est présentée chez plusieurs personnes. Là, je fais un message collectif à l'équipe et ensuite je prends individuellement les personnes. Après, si c'est un fait par rapport à la personne seule, en fait, je vais pas lui dire devant l'équipe, par exemple. Je vais profiter que ce soit d'une réunion, d'une pause café, d'un moment, ou alors je l'appelle tout simplement pour lui dire est-ce qu'on peut parler deux secondes, enfin deux minutes, sur tel ou tel sujet. Et à ce moment-là, je lui dis clairement les choses. Après, effectivement, tu as raison, je vais pas lui dire ah bah t'as fait ça, c'est pas bien. non, plutôt lui dire. En fait, pourquoi elle a fait ça ? Parce que si elle a fait une chose ou elle a eu un comportement, il y a forcément une raison. Et l'idée, c'est de trouver l'origine du problème. Et peut-être que le problème, il est à l'origine du problème lui-même, justement. Et donc, corriger plutôt en amont que chercher à mettre des pansements sur des blessures.
Ouais, je vois. La transmission, je pense que c'est un point qui est fondamental. Est-ce que ça veut dire que finalement... c'est important d'avoir cette passion. En tout cas, oui, il faut aimer transmettre les choses et en même temps, ça suffit pas. J'imagine qu'il faut aussi savoir faire preuve de pédagogie. Ça paraît quand même quelque chose d'assez indispensable. Toi, dans ton parcours, est-ce que dès que tu as commencé le dev, tu aimais déjà partager, transmettre des choses ou est-ce que dans ton parcours, il y a eu un moment où tu t'es découvert justement un intérêt, en tout cas, tu as commencé à prendre davantage de plaisir, à parler avec les autres, transmettre, apprendre, etc. Ça t'est venu quand, ça?
À vrai dire, depuis toujours, parce que même à l'école, même à l'école, je faisais des groupes de travail et j'expliquais à mes copains et copines les cours, etc. Donc, j'avais déjà cette fibre-là, on va dire, depuis toute petite. Et je suis d'accord avec toi sur le fait, et peut-être c'est grâce à ça, d'ailleurs, que j'ai gagné du temps par rapport à d'autres, puisque je le faisais depuis longtemps, et donc ma façon d'expliquer les choses s'est améliorée au fil de l'eau. Et donc, oui, on a l'impression que c'est limpide, ou c'est naturel, c'est inné chez moi d'expliquer les choses, ou... Oui, je ne l'ai pas dit au début aussi, j'ai enseigné, j'ai donné des cours à une école d'ingé à Paris.
Donc quand même, tu as quand même cette appétence pour la transmission. Ouais, ça aide beaucoup, je pense.
C'est ça, oui.
L'autre question que j'avais par rapport à ça, demain, quelqu'un dans ton équipe vient te voir, donc imagine personne développeur ou développeuse, et ça fait 2-3 ans que ça reste quelqu'un d'assez junior, 2 ans d'expérience, et elle te dit, ça m'intéresserait peut-être de franchir un pas et de je vois ce que tu fais en tant que leader technique dans l'équipe, moi j'aimerais bien faire pareil, etc. Est-ce que ça veut dire que finalement tu vas quelque part, toi, pour lui fournir un feedback, regarder les différents points que tu as évoqués, que ce soit sur le volet technique, sur peut-être sa capacité à savoir communiquer, transmettre, partager, c'est un peu tout ça finalement qui vont peut-être t'aider à lui dire à cette personne, je pense qu'il faudrait peut-être que tu travailles ces points-là, ou à l'inverse, c'est génial, tu es complètement prête, fonce.
En fait, étant dans un cabinet de conseil ou une USN, l'avantage, c'est qu'on change de contexte souvent. Donc, je change d'équipe régulièrement, tous les 3 ans à peu près. Et l'avantage, c'est que on voit plein de sortes de personnalités différentes. Et en fait, moi, de mon côté, j'apprends beaucoup à travers ces rencontres-là. Et j'ai appris à cerner un petit peu les caractères. Et dès que j'arrive dans une équipe, en fait, directement... je ne vais pas attendre le jour où, justement, comme tu dis, la personne qui vient me voir pour me dire « Dora, j'aimerais bien franchir le cap ». En fait, dès le premier jour, quand j'arrive, je sais que, je ne sais pas, telle, elle est plutôt réservée, elle est plutôt timide, mais en même temps, je sens qu'elle a des connaissances. Donc, je vais essayer de la pousser un petit peu à faire des présentations à l'équipe, à sortir un petit peu de cette timidité ou ce côté réservé. Et je commence dès le début à travailler sur ces sujets-là, quoi. Pour que le jour où ça arrive, en fait, j'ai pas besoin, parce que la personne est déjà prête.
Est-ce que ça veut dire que toi, en tant que leader technique, t'as aussi cette mission en tâche de fond, permanente, de faire grandir les gens, et donc d'être toujours un peu attentive à leur caractère, à leur personnalité, pour justement te dire, si je reste 3 ans, j'ai fait le maximum, en tout cas, pour essayer de les faire progresser, quel que soit leur niveau respectif.
Il y a ça. Et puis, il y a aussi un côté égoïste de ma part qui est de vouloir être libre. Donc, j'ai envie de partir à tout moment.
D'accord.
Et donc, pour partir à tout moment, il faut que quelqu'un me remplace.
Donc, tu veux limiter le bus factor, c'est ça, je crois.
C'est ça.
Voilà.
Moi, je suis quelqu'un qui vraiment aime être libre et ne pas me sentir contrainte parce que justement tout le monde a besoin de ma présence. Et donc je peux pas, je sais pas, sur un coup de tête partir en vacances. Ou...
D'accord, oui.
Ça m'arrive rarement, mais. Mais voilà, j'ai pas envie. Enfin, je me dis, le jour où je suis malade, je vais pas avoir cette culpabilité en mode ah là là, je suis pas avec l'équipe et l'équipe va galérer, quoi.
Donc c'est rendre autonome le reste de l'équipe justement en étant en permanence dans une démarche de transmission, de partage, parce que finalement, comme tu dis, si demain quelqu'un n'est pas là, pourquoi des fois les gens paniquent? Parce qu'il y a que cette personne qui sait faire ou qui connaît, et donc là sans elle on est perdu. Et donc ça, des fois c'est intéressant aussi de se poser un peu et de se dire on fait le tour de l'équipe en disant demain, hop, t'es malade pendant une semaine, à quel point on est embêté. Voilà. Et donc, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on travaille sur, la transmission.
C'est ça. Non, pour la petite anecdote, une fois, je devais quitter une mission. Et donc, on a un mois de préavis. Et pendant ce mois-là, c'était plus calme en termes d'évolution de nouvelles fonctionnalités. Mais le manager, du coup, m'a dit « Bon, tu sais, Dora, on va énumérer ensemble les projets sur lesquels tu as travaillé. » Je fais « Ok. » Donc, on les a énumérés. Et puis, il me dit « Bon, pour ce projet-là, est-ce que tu peux m'écrire de la doc ?» En gros, il essayait de créer un espèce de planning pour occuper mon mois. Et donc, il me dit « Ah oui, mais tu as travaillé seul sur cette partie-là, donc j'aimerais bien que tu prépares des schémas, des trucs pour expliquer aux autres, ou alors tu prennes du temps. Non, il n'y a pas besoin. J'ai déjà expliqué à tel au moment où je l'ai fait. » « Ah, ok. Et pour cette partie-là, tu veux bien écrire de la doc pour faire ?» j'ai pas besoin, parce que je l'ai déjà fait au moment où je l'ai fait. Que ce soit via les tests, que ce soit... on avait aussi un espèce de diagramme généré à partir du code directement. Donc, non, il n'y a pas besoin. En fait, au moment où je l'ai créé, je savais que c'était complexe à expliquer, donc j'avais déjà anticipé le truc pour générer le schéma. Et là, à la fin de la réunion, il me fait « Mais qu'est-ce que tu vas faire pendant le mois, alors ?» Je dis « Je vais continuer à faire des features comme d'habitude.
J'aimerais maintenant qu'on passe à l'avant-dernière partie de ce podcast. On va parler d'IA. Alors, peu de gens le font, alors je me suis dit qu'il faut quand même qu'on le fasse. J'aimerais, à fond dedans, voilà, je sais, donc je ne représente pas le contexte, mais quand même aujourd'hui, l'IA générative arrive beaucoup dans le dev depuis quelques mois. Il y a des solutions qui se répandent à vitesse grand V, on entend beaucoup parler de copilot, etc. J'ai envie de savoir, moi, Dora, dans le contexte du dev, voilà, est-ce que tu t'en es déjà servi? Je crois que oui, je vais teaser un peu la réponse. Et est-ce que tu t'en sers au quotidien? Si oui, pour faire quoi, déjà, pour commencer?
Alors, actuellement, je suis en mission de coaching pour un client. Et justement, chez le client, je suis à peu près une dizaine d'équipes de dev. Et le client a déployé de façon vraiment massive Copilot, notamment. Et on s'est dit, déjà avant même de cette propagation, l'achat massif des licences Copilot, ils avaient déjà ReSharper et pour leur environnement de dev. Et à l'époque, je l'ai poussé à utiliser la puissance de ReSharper parce que justement, le problème majoritairement avec les devs, c'est qu'ils se concentrent sur le dev et ils oublient qu'ils ont autour des outils qui peuvent augmenter leur productivité. Et le cas de ReSharper, je l'ai pris exprès parce que c'est un indicateur pour voir le niveau, on va dire, d'utilisation des outils par rapport à chacun ou chacune. Et pour l'IA, pour moi, c'est le même syndrome ou le même contexte. C'est qu'on a des outils, ça reste un outil pour moi, qu'on peut utiliser pour augmenter sa productivité, pour faciliter la tâche qu'on fait au quotidien. Et en fait, on ne s'en sert pas, de façon générale. Moi, il y a plein de choses là. Par exemple, je t'avais dit, je suis speaker quand on m'accepte en conf. Et premier réflexe que je fais quand je crée mes CFP, par exemple, rien que pour trouver un titre, par exemple, pour les confs, souvent, je me tourne vers ChatGPT, propose-moi 10 titres de conférence pour tel, et puis je lui explique le contexte. Et ça me permet d'avoir déjà quelques exemples d'accroches pour que, après, ça ne veut pas dire que j'utilise exactement ce qu'il me dit, mais au moins, ça m'ouvre tout de suite l'esprit. C'est comme si tu avais un canard en plastique au final à côté, mais en mieux. Et ça m'ouvre un petit peu les idées, en tout cas, pour trouver autre chose.
Ça t'ouvre des perspectives, quoi. Voilà. Ça te sort un peu, t'es en train de penser, toi, à des solutions, et lui, t'en apporte d'autres. Toutes sont pas satisfaisantes, mais dans l'une, il y a un mot intéressant, une tournure intéressante que tu peux prendre. Donc, ça reste un support.
Côté dev, pareil. Dans les équipes, je leur dis, par exemple... Ok, on fait, habituellement, quand on prend une nouvelle user story, on va la décortiquer avec le PO ou la PO, on va essayer d'identifier quelques exemples. Justement, ces exemples-là se transforment en test et on y va en TDD ou pour faire le développement. Et en fait, rien que l'extraction des exemples, ça peut être utile pour utiliser une IA générative. Notamment, OK, quand on pense aux exemples, le réflexe de tout le monde, c'est de sortir les cas nominaux et puis un ou deux cas, on va dire, cas limites, quoi.
D'accord, ouais. Genre la liste vide, un truc comme ça, ou données en entrée
C'est ça.
undefined, ouais. Ok.
Et en fait, l'avantage de notamment Copilot Chat, c'est que tu peux lui dire, OK, j'ai déterminé, bah voilà le fichier ouvert avec tous les exemples. Est-ce que tu peux me proposer d'autres exemples? Et donc lui, enfin, si on rajoute en plus, on lui dit, bah je veux bien des exemples limites, voilà des cas particuliers, etc. En fait, il arrive quand même à détecter des choses. Habituellement, quand on fait, notamment, je pense à la technique de property-based testing, où là, on a le test et puis ça génère automatiquement une centaine de valeurs un peu bizarres, on va dire, par rapport à ce qu'on a l'habitude de sortir. Mais là, c'est pareil, sauf que parfois, c'est en mieux. Notamment, justement, hier, on en parlait de les noms, rien que les noms de famille, par exemple.
Oui.
Quand on s'arrête à quelques noms de famille, Monsieur Dupont, voilà. Et en fait, on oublie que certains noms de famille atteignent parfois 35 caractères. La combinaison de noms, et puis même, y a certaines, pour ne pas les citer exactement, mais il y a certaines régions du monde où le nom, il est vraiment une combinaison de prénoms-noms. Ça fait beaucoup de caractères. Et ça, rien que ça, on l'oublie souvent. Parce que la valeur par défaut, quand on crée une base de données, c'est 25 caractères. Et puis, oups. Donc voilà, enfin ça c'est des cas, on va dire, au niveau des exemples. Mais au-delà de ça, on peut carrément, enfin, il y a plein de scénarios pour moi qui peuvent être utilisés dans notre contexte, on va dire, de dev. Il y a, je parlais des exemples, on peut carrément l'entraîner sur les données qu'on peut récupérer de la pipeline, par exemple, pour dire, OK, ou même avant même la pipeline du dashboard, pour voir ce qu'on appelle le life cycle d'une user story ou le time life de l'US. Et on peut regarder, lui dire bah, quels sont les US, par exemple, qui prennent, enfin, pour trouver un petit peu les goulots d'étranglement, notamment. Qu'est-ce qui fait que on a l'impression que tout va bien, mais en fait, non, finalement, l'US, elle a pris 6 mois, mais en fait, elle a été développée en une semaine. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, pourquoi? Nous aider un petit peu à remonter ou à analyser la situation. Donc ça peut être utile aussi.
Il va y avoir peut-être un temps, parce que juste comme toute innovation, il y a les personnes prennent plus ou moins du temps pour se l'approprier. Mais en tout cas, voilà, c'est prendre le réflexe justement au quotidien quand on a besoin. Bah, là, tu en as cité quelques-uns des scénarios, mais enfin, en fait, ça reste essentiellement un support. Et je entends beaucoup le discours, ça va remplacer les gens. Enfin, ouais, je sais pas ce que tu en penses. Moi, j'ai quand même l'impression que bah, on a quand même besoin des gens pour donner des choses intelligentes à donner en entrée pour avoir de la donnée intelligente en sortie.
En fait, moi, c'est pour moi, c'est le même phénomène qu'il y a quelques années quand on a eu Google Search. Tout le monde s'est dit, oh là là, on va plus rien faire, il y aura plus d'intelligence, tout le monde va chercher sur Internet et puis il y a plus de réflexion, il y a plus, enfin, tout le monde va devenir bête en fait. Bah non, en fait, on crée des choses encore plus intelligentes qu'avant quoi. Et là, c'est pareil, c'est juste que au lieu d'avoir un Google Search et c'est toi qui vas faire l'action de chercher. Bah en fait, la recherche, elle est automatiquement remontée. Enfin, le résultat est automatiquement remonté à toi. Donc, c'est encore. Notre métier va revenir pour moi à son premier sens, qui est vraiment l'ingénierie, et ne pas juste écrire du code pour répondre à un besoin.
Donc quelque part, ça va permettre de revaloriser ou de remettre sur le devant de la scène ce qui fait l'essence même du métier. Donc au final, c'est intéressant aussi. Et t'as l'impression qu'une majorité de gens est plutôt friande justement dans l'univers du dev à utiliser ça ou que ça y a une majorité de personnes un peu réticentes ou...
En fait, il y a un peu de tout. J'ai vu des personnes complètement réfractaires, en mode ah non non, j'ai pas envie que ça remplace notre métier, et donc non, je vais pas l'utiliser, je vais même pas m'y intéresser. Et d'autres gens qui n'y pensent pas, tout simplement. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ne pensent pas à utiliser ces outils-là. Et puis d'autres qui sont à fond dedans. Moi, je pense à un Arolien, justement, lors du séminaire d'Arola, on discutait et il me disait qu'il avait carrément utilisé... En fait, il était en train d'apprendre le japonais. Et la construction des phrases... alors, il m'a expliqué, hein, je ne suis pas experte. Mais il me disait la construction, elle est un peu spéciale et parfois, rien que un son... si tu le prononces mal, en fait, ça donne une signification complètement différente. Donc, tu perds ton interlocuteur. Et donc, pour apprendre, justement, il a pris au début des cours avec un prof. Et ensuite, il s'est dit, il faut que je parle. Et il faut que je parle à quelqu'un ou quelque chose. Et donc, il a réussi à faire un outil qui traduit de l'anglais vers le japonais avec la remontée directement. Donc, il lui propose des constructions et, de phrases pour qu'il arrive à le prononcer et ça lui dit est-ce que tu prononces bien ou mal. Et ces prononciations sont traduites en texte envoyé dans ChatGPT pour qu'il lui dise en fait est-ce que c'est bien ou pas bien.
Ok.
J'étais en train
c'est marrant.
De dire, et qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu me parles comme ça dans le bus en allant vers le séminaire d'Arola comme si c'était normal ce que tu es en train de faire, mais c'est génial.
Je te remercie Dora pour avoir partagé ta vision sur l'impact de l'IA générative dans le quotidien des devs. Je te propose Dora, pour finir ce podcast, de nous partager quelques recommandations de lecture, une vidéo, une conférence, un blog post, quelque chose qui t'a marqué récemment ou peut-être un livre voilà, que tu as lu il y a 15-20 ans et qui pour autant est toujours d'actualité. Quelles seraient tes recommandations, Dora, pour nos auditeurs et auditrices?
Alors, comme tu l'as dit, hein, je vais le dire. Il y a déjà, quand on a écrit le bouquin Software Craft, on voulait que ça soit une introduction au craft, justement, pour éviter aux gens de lire, parce que généralement, quand on parle de craft, il y a une dizaine, voire une vingtaine de livres à lire et à recommander. Et surtout que tous les bouquins sont en anglais. Donc, on s'est dit, on aimerait bien avoir un livre d'intro pour parler, justement, de ce que c'est que le craft et pour avoir une introduction. Et éviter aux gens de lire une vingtaine de livres pour dire en fait, j'ai appris peut-être 10%. Donc, l'idée, c'est. Et à la fin du livre, on donne vraiment une orientation vers si tu veux approfondir sur ce thème-là, va lire tel bouquin, etc. Donc, ça, c'est petite section pub. et après, il y a un bouquin qui m'a été recommandé il y a quelques temps par un collègue. Qui s'appelle « It doesn't have to be crazy at work ». Et en fait, ce bouquin, il parle de... les deux auteurs, en fait, ils parlent de comment ils organisent le temps dans leur boîte. En fait, ce qu'ils disent, c'est que tout le monde court derrière le temps pour faire plein de fonctionnalités, etc. Et enfin, pour résumer en une phrase, et en fait, finalement, si on peut tout faire à la fois, chose que beaucoup pensent impossible, mais c'est toute une question d'organisation et de priorisation et vraiment de réduire de réduire le scope de ce qu'on veut faire parce qu'on est tous et toutes perfectionnistes et on a envie de faire joli, beau, etc. Et en fait ça recentre on va dire vers vraiment l'essentiel et te dire en fait t'as pas besoin de tout comment être minimaliste au final.
D'accord.
Dans la vie, dans les projets, dans tout.
Ok, donc pour les personnes qui ont l'impression parfois d'être, ou l'impression d'être tout le temps sous l'eau, d'avoir 10 000 trucs à faire et de ne pas arriver à tout faire bien, ça me semble être un bon conseil.
C'est ça.
Super, ben merci Dora. On mettra dans la description du podcast les pointeurs vers ces deux livres. Dora, on arrive à la fin de ce podcast, déjà, le temps passe si vite.
Ouais.
J'espère que tu as passé un bon moment. Bon, en tout cas, j'étais ravi de t'avoir avec nous pour cet épisode. Et je te remercie pour tout ce que tu nous as apporté comme enseignement et comme anecdote. C'était hyper enrichissant.
Merci encore pour l'invitation et merci d'être la première invitée. Et j'espère plein de succès pour ce podcast.
Ben, merci beaucoup, c'est gentil à toi. Nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain podcast. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt. Au revoir, Dora.
Au revoir.